Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Richard de Seize.
Chers amis, bonjour. Nous sommes jeudi de l'Ascension, c'est un jour férié. Ligne droite fait relâche, mais non, justement, vous allez pouvoir entendre ce matin, pendant 3 heures, les 3 heures habituelles de l'émission, un ensemble d'émissions déjà passées que nous sommes allés piocher dans Ligne droite, que nous sommes allés piocher dans Radio Courtoisie, avec des entretiens qui tournent tous autour d'un seul thème, la remigration. Pourquoi ? Parce que l'immigration est évidemment une problématique qui est mondiale et que la France a décidé d'accueillir de façon quasi inconditionnelle, d'accueillir de manière toujours plus large et d'accueillir des gens qui, peu à peu, en fait, refusent de s'assimiler, refusent de s'intégrer et, au contraire, entendent transformer profondément la société française au point que cette immigration, qui est un fait, voilà, il y a toujours eu des étrangers qui viennent s'installer ailleurs, mais là, ce sont des étrangers par dizaines, centaines de milliers, millions, qui viennent en Europe et en France et qui entendent changer l'Europe et changer la France, changer la culture, changer la civilisation du pays qui les accueille. Et cette remigration, du coup, n'est pas une réaction de rejet, c'est une réaction de défense, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose de salutaire, c'est quelque chose d'existentiel. Ce mot remigration, on essaye de le diaboliser, non, il ne s'agit pas de renvoyer les gens fer au pied et kang autour du cou chez eux, il s'agit d'organiser leur retour, il s'agit d'organiser la manière dont ces personnes qui sont venues en France ou en Europe peuvent et doivent repartir chez eux. Un essai de Jean-Yves Le Gallou, tout à fait remarquable, paru aux éditions La Nouvelle Librairie, revient d'ailleurs sur l'histoire de ces remigrations qui ont déjà eu lieu au XXIe siècle, au XXe siècle, au XIXe, dans des conditions qui ne sont pas systématiquement violentes, avec des aides au départ, et revient évidemment sur les principes qui gouvernent cette remigration, sur la nécessité de cette remigration. Jean-Yves Le Gallou n'est pas seul à avoir ce combat. Ils sont nombreux, évidemment, en France, en Europe, dans le monde, à mettre en place ces politiques de remigration. La France résiste par idéologie, par aveuglement, par immigrationnisme. Et nous avons le droit, effectivement, d'exiger que ceux qui n'apportent rien à la France, mais qui, au contraire, s'y installent et en profitent, et en plus veulent changer ce qu'est la France, nous sommes en droit de demander qu'ils repartent, et nous sommes en droit d'imaginer les solutions pour qu'ils puissent facilement repartir, ou volens nolens. Et d'autres personnes vont en parler à côté de Jean-Yves Le Gallou, donc interrogé au micro de Pierre-Alexandre Bouclet, d'Alexandre de Galzin, de Liselotte Dutreuil, etc. Ce sont à chaque fois des personnes qui ont un parti pris précis, un parti pris argumenté, et il est intéressant, voilà, par exemple, d'écouter Martin Selner, qui est le grand ordonnateur de la remigration, celui qui a popularisé le thème et qui organise de grands rassemblements en Europe pour appeler au retour des étrangers chez eux, et voilà, qui a été reçu dans Ligne droite. Bien sûr, le général Vannacci, qui nous dit que la remigration est indispensable pour sauver l'Italie, mais aussi, par exemple, David Engel, ce philosophe qui nous explique que l'Europe est face à une transformation sans précédent puisqu'elle a accueilli 64 millions d'émigrés et qu'évidemment 64 millions d'émigrés, la population totale de la France répartie sur l'ensemble des pays européens, c'est un changement de civilisation potentiel et c'est un changement d'ailleurs dont on apprécie déjà, le mot apprécier est peut-être ironique ou mal choisi, dont on apprécie déjà les bienfaits. Voilà, cette immigration, on en va en parler pendant quasiment 3 heures, donc le temps d'une émission, avec donc des gens autorisés, qui ont réfléchi à la question, ils ont réfléchi philosophiquement à ce qu'est une civilisation, ils ont réfléchi politiquement aux décisions qui sont à prendre, ils ont réfléchi d'un point de vue civilisationnel au danger de l'immigration, et donc à chaque fois, ce sont des points de vue intéressants, argumentés, précis, qui vont vous aider à rentrer dans la remigration, à rentrer dans l'idée de cette possibilité d'une remigration, et vous allez voir, en fait, ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas impossible, et ça ne signifie pas pleurs, horreurs, cris, grincements de dents et autres horreurs, pas du tout. Voilà, on peut remigrer tranquillement. Et d'ailleurs, une partie, une fois plus, des pays du monde ont déjà mis en œuvre ces politiques et ça s'est bien passé. Il n'y a pas de raison, sinon les blocages politiques, que ça ne se passe pas bien en France. Merci d'être avec nous sur Ligne droite ce matin. Et bien sûr, les émissions normales reprennent dès lundi prochain.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la Ligne droite.
Et pour ce nouvel entretien ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, nous recevons Jean-Yves Le Gallou, que vous connaissez bien, chers auditeurs. Jean-Yves Le Gallou, bonjour.
Bonjour Alexandre de Galzin.
Alors je rappelle que vous êtes président de Polémia, que vous êtes le cofondateur aussi de l'Institut Iliade, que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, on ne va pas tous les citer, mais enfin tout de même Mémoires identitaires 1968-2025, Les Dessous du Grand Basculement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas exactement de ce grand basculement dont nous allons parler, c'est aussi du grand remplacement. C'est un sujet évidemment vous connaissez bien, que vous avez même été un des sur lesquels vous avez été un des pionniers en France. Nos auditeurs le savent. Je précise aussi que j'anime cet entretien avec Maëlys Clozel. Peut-être la première question que je voudrais vous poser, Jean-Yves Le Gallou, c'est que autant en 2022, le grand remplacement est un thème qui s'est vraiment imposé dans la campagne présidentielle, notamment par l'effet d'Éric Zemmour. Maintenant, c'est plutôt le terme de remigration qui est revenu et le terme de grand remplacement qui a redisparu.
Non, le terme de grand remplacement n'a pas disparu. Il s'est un peu imposé. Aujourd'hui, c'était un terme qui était entre guillemets controversé, voire qualifié de complotiste, et qui aujourd'hui s'est imposé parce que tout simplement, c'est la réalité. Mais à partir de ce constat, à partir de cette réalité, il faut se poser la question de la solution. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, c'est très simple. Si on ne fait rien, on aboutit à la submersion migratoire, au fait qu'à terme, les Européens seront minoritaires sur la terre d'Europe, les Français minoritaires sur la terre de France. Et donc, si on veut éviter ça, il faut adopter la seule solution possible, c'est-à-dire la remigration, c'est-à-dire l'inversion des flux migratoires, passer d'une immigration qui s'accumule chaque année à hauteur en Europe, de 4 à 5 millions de personnes supplémentaires, à hauteur en France de 500 000 personnes supplémentaires, eh bien, il faut passer à un solde négatif pour reprendre la maîtrise de la situation, parce que sinon, la dynamique démographique est telle que, eh bien, d'ici une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les bébés français seront minoritaires dans les maternités. Donc, la remigration, c'est la solution.
Oui, alors justement, vous l'avez dit, la remigration, c'est la solution. Et d'ailleurs, un récent sondage de l'IFOP, publié donc en avril, est assez révélateur, puisque 6 Français sur 10 évoquent un remplacement de la population et 66% s'en inquiètent. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Yves Le Gallou ?
Ça m'inspire le fait que la réalité saute aux yeux des Français. Je dois dire d'ailleurs, quand on fait le sondage aujourd'hui, il y a une partie des gens sondés qui sont... issus de l'immigration, et donc ce qui biaise un petit peu le résultat.
Oui, bah après, ça ne leur empêche pas d'avoir le constat, enfin d'adhérer au constat aussi.
Ça ne les empêche pas d'adhérer au constat, ça les empêche peut-être de les conduire à penser que c'est un constat négatif, parce qu'ils peuvent peut-être aussi voir des aspects positifs dans la mesure où le monde de l'immigration fonctionne sur la logique des diasporas, c'est-à-dire les diasporas ethniques ou religieuses amenant d'autres personnes de la même diaspora à s'agréger auprès d'eux. Mais à partir du moment où il y a le constat, il faut maintenant que l'opinion comprenne, et après l'opinion, les hommes politiques qui comprendront toujours avec retard, que l'opinion comprenne qu'il faut adopter les solutions qui valent, il faut tirer les conséquences de ce constat.
Et déjà, en 2021, un sondage qui était sorti donc, durant la campagne présidentielle et sur cette thématique portée par Éric Zemmour à l'époque, encore une fois, du grand remplacement, ce qui est assez paradoxal, c'est que à la fois, à cette époque, 53% des Français disaient « oui, il y a un grand remplacement », d'un autre côté, 55% des Français disaient aussi que c'était raciste.
Parce que la tendance de l'opinion est quand même d'absorber comme une éponge ce qu'on lui dit et ce qu'on lui répète. Il faut bien voir qu'on vit, et vous avez reçu Roger Chudeau avant moi pour parler du rapport à l'oncle, que les Français baignent dans de la propagande permanente. Et que, contrairement à ce que les gens croient parfois, la propagande, c'est efficace. Et si vous recevez en permanence un message comme quoi ceci est raciste, bah vous finissez par plus ou moins le croire et reprendre à votre compte ce qu'on a mis dans votre tête.
Et justement, selon vous, qu'est-ce qui a provoqué ce basculement d'opinion? Est-ce que c'est parce que les Français se frottent au réel et donc ils le constatent et le déplorent, comme le titre de l'entretien? Enfin, qu'en est-il selon vous?
Ah, je crois que c'est le réel, oui. Oui, je crois que, si vous voulez, on est dans une situation où la volonté des médias de grand chemin, de service public ou non d'ailleurs, a été de cacher le réel. Voilà. Et il y a un moment où le réel, il a explosé à la figure de l'opinion, notamment parce que on est passé d'une situation où l'immigration était limitée dans quelques zones à une immigration qui est maintenant répandue absolument partout, oui. Puisque la politique, c'est la répartition sur le territoire national. Et la répartition sur le territoire national, c'est quoi? Eh bien, c'est le développement de l'insécurité dans des villes de province, voire des villes petites ou moyennes. Mmh. L'impossibilité pour les femmes de circuler librement dans ces mêmes endroits. Et donc, c'est difficile d'échapper à cette réalité. Maintenant, l'étape actuelle, l'étape prochaine, c'est d'arriver aux solutions et non pas de faire comme on l'entend à nouveau, la petite musique de M. Attal, de M. Philippe et de quelques autres. C'est on va réguler l'immigration. Ça fait 50 ans qu'on parle de réguler l'immigration. Ça ne marche pas. La question, c'est pas la régulation. On va dire, on va limiter l'immigration clandestine. C'est pas la limitation de l'immigration clandestine. C'est pas la régulation. La solution, il faut le dire clairement, c'est la remigration. Mmh. Il faut la remigration. L'immigration est nuisible. L'immigration est une catastrophe. Eh bien, il faut en tirer des conséquences et inverser le sens des flux.
C'est vrai que sur le constat, il semble que maintenant tout le monde est absolument tout le monde est d'accord. Il y a deux points que je voudrais soulever en votre compagnie. C'est d'abord le premier, évidemment, cette question de la nouvelle France qui est portée par la France insoumise. On voit d'ailleurs que ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce même sondage, ceux qui pensent qu'on assiste à une transition démographique profonde et qui pensent que c'est une bonne chose, eh bien, en fait, sont 32% des insoumis, 39% des écologistes. Eux, ils disent il y a un grand remplacement en France et c'est très bien. Comment ça se fait que finalement même ces gens en viennent à être d'accord avec nous sur le constat mais simplement sont passés de la négation de ce constat en expliquant que la France avait toujours été une terre d'immigration, etc. Ouais. Ce grand discours qu'on a toujours entendu, ils sont passés de ça à finalement oui vous avez raison, il y a un grand remplacement mais c'est super.
Oui, c'est ça. Alors, il y a la novlangue là, qui vient au service. Alors, il y a la novlangue mélenchoniste. C'est la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est le Québec. Le Québec, c'est quoi? C'est des Français de l'Ouest, de Bretagne, qui vont coloniser, mettre en valeur une terre vide et qui en font effectivement une petite France, une Nouvelle-France. Là, c'est tout à fait différent. Ce sont des gens qui arrivent d'Afrique ou du monde musulman pour implanter leur mode de vie sur notre territoire qui est déjà très, très occupé, très densément occupé. L'Europe est une des parties les plus densément occupées du monde. On n'a pas besoin de gens qui viennent d'ailleurs. On a mis en valeur notre terre, on l'occupe, on n'a pas besoin de gens venus d'ailleurs. Il y a un autre terme qui a été lancé par l'académicien M. Orsena sur l'irrigation.
Oui, alors c'est
l'irrigation.
Ça,
ouais. Je pense d'ailleurs que M. Orsena, qui a, je crois, une maison de villégiature sur l'île de Bréa. Je ne suis pas sûr que les gens qui ont une maison de villégiature sur l'île de Bréa ont très envie d'être irrigués par cette population nouvelle. Je ne crois pas.
Peut-être que ça pourrait leur faire changer d'avis.
Mais il a table ouverte, si je puis dire, sur le Figaro, alors que le Figaro, par exemple, ne parlera pas de remigration. Je pense qu'ils en parleront dans 10 ans, peut-être quand ce sera trop tard. Ouais. Il y a un moment...
Pour l'instant, on est encore dans la phase « Qu'est-ce que la remigration ?» ce concept prôné par l'intellectuel d'extrême droite, Jean-Yves Le Gallou.
Oui, c'est ça. Voilà. Merci de votre qualificatif. Oui, le problème, si vous voulez, c'est que je suis peut-être d'extrême droite, comme vous dites. Je suis surtout d'avant-garde, parce que je pose les problèmes un peu avant les autres, ou avant beaucoup d'autres, en tout cas.
Autre point, juste précisément sur ce débat, et après je laisserai Maëlys Clauzel revenir sur ces questions. Simplement, on a eu un débat très, très intéressant l'autre jour, que je vous invite à regarder, tant c'est lunaire d'une certaine façon. C'est un débat entre Kachetier Roubaud, donc à porte-parole du PCF, et Antoine Léaumont, donc de la France Insoumise, qui débattent sur, c'est la chaîne de l'Humanité, qui débattent. Et alors, ce qui est assez fantastique, c'est que ce porte-parole du PCF explique que non, il n'y a pas de nouvelle France, parce que la France a toujours été une terre d'immigration, et finalement se retrouve à être dépassée par sa gauche, par celui qui va dire que oui, en fait, il y a bien une nouvelle France, et qu'il y a bien un grand remplacement. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on a l'impression que même le PCF, qui est, on va dire d'une certaine façon, pro-remplacement, enfin en tout cas pro-immigration dans le fond...
Il ne l'a pas toujours été, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, qu'il ne l'a pas toujours été, mais finalement, on a l'impression qu'il y a toujours un vieux système, quelque part, qui irait de LR jusqu'au PCF, d'une certaine façon. Renaud Camus a un terme pour ça, c'est qu'il appelle les négationnistes. Oui, voilà, exactement, les négationnistes du grand remplacement.
Et du génocide.
Exactement. Oui. Et d'un autre côté... on se retrouve sur les deux ailes de la politique française à avoir désormais donc cette opinion majoritaire selon laquelle ça existe bien. Est-ce qu'il y a encore un vieux système selon vous qui s'accroche et qui...
C'est le vieux système de propagande qui a dit la France est une terre d'immigration, ce qui est tout à fait faux, puisque la France elle a été stabilisée, la population de la France remonte à plus de 3000 ans et elle n'a pas bougé, sauf de manière périphérique ou à l'époque des grandes invasions par l'arrivée d'autres populations européennes
et qui ne représentaient pas grand monde
et qui ne représentaient que quelques pourcentages, donc ça ne représentait pas grand chose, et c'était des voisins si je puis dire. La France est stable depuis 3000 ans et il y a eu un début d'immigration à la fin du 19e siècle au 20e siècle qui était une immigration européenne qui n'a évidemment rien à voir, soit polonaise, belge, italienne, puis après espagnole et portugaise, qui n'a rigoureusement rien à voir avec l'immigration africaine ou l'immigration musulmane, qui est une immigration qui vient de civilisations différentes et même assez largement antagonistes, parce que je rappelle quand même que l'islam, c'est 15 siècles de conflit avec la chrétienté et l'Europe. Voilà, ça la réalité.
Alors Jean-Yves Le Gallou, vous le savez certainement, mais même à droite, il y a des gens qui expliquent qu'on a quand même besoin d'immigration, notamment dans le travail. Voilà, ils disent que la main-d'œuvre, entre guillemets, le sale boulot, si on peut le nommer ainsi, ne se ferait pas si les immigrés n'étaient pas là. Vous, qu'est-ce que vous avez à leur répondre ?
Je crois que c'est un contresens absolu. C'est-à-dire que l'immigration massive que nous subissons, notamment à travers la clandestinité et le travail clandestin, ne règle pas le problème des difficultés à trouver des personnes pour occuper ces emplois. Elle le crée, parce que l'arrivée de ces populations diminue la qualité des conditions de travail, diminue le niveau des salaires versés et fait disparaître la population française qui pourra occuper ces emplois. On peut prendre un exemple très simple. Il y a 10 ans ou 20 ans, même peut-être un peu moins, il y avait des étudiants qui pouvaient faire des livraisons. Aujourd'hui, avec les cadences demandées et le prix horaire qui est à peu près de 5 euros, la main-d'œuvre française ou étrangère déjà installée en France, qu'on oublie de dire, puisque les poches de chômage les plus importantes, ce sont les étrangers installés en France et les descendants d'étrangers en France, ne vont pas dans ces métiers-là parce qu'ils sont pris par des gens qui acceptent des salaires beaucoup plus bas. C'est l'immigration clandestine qui crée les problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment ou la restauration.
Et d'un autre côté, comment expliquer que, par exemple, encore une fois, sans mettre en cause vos propres compétences, mais que le MEDEF, qui justement représente toutes les grandes entreprises, tous les gens qui ont directement intérêt à faire à la croissance et à faire marcher leurs entreprises, vous expliquez que le MEDEF soit pro-immigration, quand vous expliquez que par exemple, MEDEF... les secteurs où il y a le plus de pénurie de main-d'œuvre, je pense notamment à la restauration, on a des sortes de Thierry Marx qui vont nous expliquer du matin au soir que maintenant, il faut construire des HLM pour les clandestins que lui fait venir pour bosser dans ses cuisines.
Parce que lui, il transfère la charge au public.
Oui.
Lui, il fait baisser les prix de gens qui payent des repas 200 ou 300 euros et il fait payer la charge du logement, des soins, de l'aide sociale à la collectivité. Mmh. Vous savez, il s'appelle Marx. Et bien Marx, pour lui, pour Marx, les travailleurs étrangers, clandestins, c'est l'armée de réserve du capital, comme les chômeurs étaient l'armée de réserve du capital, pour Marx, l'autre. Voilà. Et de côté, oui, c'est une affaire entre marxistes. Mais... J'ajoute que le MEDEF n'est pas chargé de l'intérêt général. Le MEDEF, il a une vision à court terme. Il a une vision à court terme. Et si vous êtes court-termiste, eh bien oui, vous vous dites, bah oui, bah là, je vais trouver du monde comme ça. Si vous raisonnez, ne serait-ce qu'à l'horizon de 3 ans ou 5 ans, vous recréez un marché plus naturel.
Mais en disant ça, vous divisez le prolétariat, Jean-Yves Le Gallou.
Comment je divise le prolétariat?
Ben voilà, c'est-à-dire que c'est ce que vous répondrez à la gauche.
Je ne considère pas que les gens qui sont dans les cuisines des restaurants ou qui servent dans les restaurants sont des prolétaires. Hein, ouais. Ce sont des métiers tout à fait respectables dont il est absolument scandaleux qu'on ait dégradé les conditions de travail.
Alors justement, il y a un refus massif de cette immigration, n'en déplaise à la gauche et à la propagande du service public. Pensez-vous justement que ce refus de l'immigration peut être carrément traduit dans les urnes, notamment en 2027?
Alors, je crois que le problème, c'est pas seulement qu'il se traduise dans les intentions. Parce que dans les intentions, oui, il va se traduire dans les urnes, soit pour le vote pour un candidat national, ou une candidate nationale, ou des candidats nationaux, soit même pour les candidats de l'extrême-centre, que ce soit M. Attal ou M. Philippe, qui passeront quelques bonnes paroles sur le sujet, il faut qu'ils se traduisent dans les faits, et qu'on fasse comprendre aux Français qu'ils doivent reprendre le pouvoir sur l'immigration, le pouvoir sur les politiques migratoires, soit directement par référendum, soit à travers le travail de leurs parlementaires. Et il faut affirmer clairement que la loi doit l'emporter sur les interprétations, sur les traités internationaux, sur les conventions internationales, et que la loi doit reprendre le pouvoir politique doit reprendre le pouvoir sur les juges. C'est ce que j'appelle le juge exit. Ce n'est pas seulement un problème français, dans tous les pays européens, il y a le problème des juges qui imposent une immigration dont les populations ne veulent pas, en se plaçant exclusivement du point de vue du droit des migrants et non pas du point de vue de l'intérêt général.
Alors Jean-Yves Le Gallou, il y a aussi une question, c'est qu'aujourd'hui, bon, le parti qui pourrait lutter contre l'immigration, qui a le plus de chances de l'emporter aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Vous critiquez souvent le Rassemblement National, comment est-ce que vous voulez qu'il vous écoute?
Oh bah écoutez, moi je les critique parce que je critique quand ils méritent d'être critiqués, c'est-à-dire quand ils ne font pas avancer les choses dans la bonne direction parce qu'ils sont peut-être parfois trop craintifs. Et donc, je pense que c'est assez utile qu'il y ait à côté des partis des forces intellectuelles ou métapolitiques qui mettent en avance un certain nombre d'idées et qui, en quelque sorte, préparent le terrain.
Mélisse Clauzel, la question de la fin?
Oui, bien écoutez, donc le grand emplacement est démocratisé, hein, maintenant c'est plus un sujet. Est-ce que vous pensez que justement la remigration peut suivre un petit peu le même chemin et mettre demain d'accord la majorité des Français?
Je pense, pour vous répondre, ainsi que pour répondre à Alexandre, vous remarquerez que pendant très longtemps, le Rassemblement National, je crois encore aujourd'hui, ne parle pas du grand remplacement.
Non.
Le grand remplacement s'est imposé. Dans l'opinion, voilà, parce que c'est un fait. Je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement National ne parle pas ou pas encore de remigration, mais que la remigration s'imposera dans l'opinion, non pas parce que c'est un fait, mais parce que c'est une absolue nécessité.
Mais alors, est-ce qu'on a vraiment besoin, justement, d'employer ces mots-là précisément? Parce qu'on a l'impression que ce qui fait peur au RN aujourd'hui, c'est pas tellement de... Enfin, en fait, ils sont d'accord pour dire qu'il y a une modification de population, mais dans le fond, ils veulent pas utiliser les termes grand remplacement. Ils sont d'accord pour renvoyer un certain nombre d'étrangers, mais ils veulent pas appeler ça remigration. Est-ce que c'est si important d'utiliser ces termes-là?
Bah oui, parce que mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde.
Eh bien, écoutez, on finira avec cette citation de Peggy, c'est bien ça?
Oui, je crois que c'est ça.
Oui, voilà, je tape de Peggy. Merci beaucoup, oui. Jean-Yves Le Gallou, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de Polémia, que vous êtes également le cofondateur de l'Institut Iliade et que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Mémoires identitaires, qu'on vous invite à aller acquérir aux éditions Via Romana. Merci beaucoup.
Et la remigration.
Et la remigration.
Et oui. La remigration pour l'Europe de nos enfants. À acquérir cette fois à la Nouvelle Librairie ou à l'Institut Iliade.
Eh bien, très bien. Voilà, c'est comme ça la promotion est faite et
absolument.
On mettra ça à jour. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Gallou. À très bientôt sur Radio
Merci.
Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous poursuivons avec vous, David Engels. Bonjour. Merci.
Bonjour.
Alors, nous allons parler de remigration. Ça plaît toujours aux auditeurs. Tout le monde discute de Gaza, mais peu de commentateurs mentionnent que, d'une manière ou d'une autre, toute cette crise pourrait surtout impliquer un nouvel assaut d'immigration illégale sur l'Europe. Or, déjà maintenant, la discussion sur la nécessité d'une remigration systématique est plus viciée que jamais. Qu'en pensez-vous et comment déblayer ce terrain miné, David Engels ?
Oui, en effet, le mot « remigration » suscite immédiatement passion, caricature et malentendu. Certains y voient un fantasme extrémiste, d'autres une nécessité vitale, mais rares sont ceux qui abordent la question avec méthode et réalisme stratégique. Non pas pour être pour ou contre, mais pour simplement se rendre compte des conditions et conséquences. Souvent, on dirait que même du côté de la droite politique, le moralisme l'a emporté sur le sens critique et sur la réelle politique. Réfléchir sérieusement à la possibilité d'un retour massif des étrangers illégaux ou avec un titre de séjour seulement provisoire dans leur pays d'origine implique d'examiner non pas seulement nos principes politiques, mais aussi et surtout nos rapports de force. Ainsi, expulser des centaines de milliers de personnes ne se décrète pas simplement du jour au lendemain depuis Matignon ou l'Élysée. Cela suppose une solidarité hors pair à l'intérieur de la France, dont on est très très loin, mais là c'est un autre chapitre, et surtout un levier politique et économique fort sur les pays de retour des illégaux, qui devraient aussi idéalement être leur pays d'origine, afin de clore le cercle. Or, à ce moment, aucun pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, du Proche-Orient ou d'Asie centrale n'acceptera de bon gré le retour de dizaines de milliers de ses ressortissants sans moyen de pression. Dire que c'est honteux, d'autant plus qu'on sait bien que ces États se servent de la vague migratoire pour se débarrasser aussi d'éléments criminels ou politiquement problématiques, mais c'est ainsi. Or, pour émettre une telle pression, il faut disposer d'un véritable pouvoir de contrainte, car il est évident que le fait de baser un retour des illégaux uniquement sur des contreparties positives, par exemple en termes d'aide, de visa, d'accords commerciaux, militaires, serait plutôt perçu comme un genre de récompense et doit donc être considéré comme hautement contre-productif.
Alors, selon vous, la France possède-t-elle toujours de tels moyens de pression, David Engels ?
Eh bien, malheureusement, ce pouvoir de pression, on peut dire que la France l'a perdu. Ses capacités militaires sont limitées, ses finances exsangues, son influence diplomatique érodée par des décennies d'incohérences. Même dans le meilleur des cas, la France seule n'a plus les moyens d'imposer ses conditions à des dizaines d'États extra-européens qui se tournent désormais vers la Chine, la Russie ou la Turquie pour y chercher protection et financement. Autrement dit, toute politique migratoire sérieuse qui irait au-delà de la simple propagande suppose la restauration d'un rapport de force que la France, en l'état actuel de ses capacités, ne peut plus construire seule. Rien qu'en France, il y aurait 150 000 demandeurs d'asile, donc 1000 vols d'avions pleins à craquer et sans personnel de surveillance. Ramener ces personnes chez eux sans l'accord préalable des pays en question impliquerait une capacité navale ou aérienne que la France ne possède pas et, soyons honnêtes, ne possédera probablement plus jamais. D'autant plus qu'elle risque de se heurter non seulement à la résistance des États surnommés, mais aussi de leurs alliés, chinois, russes ou turcs, qui seraient enchantés de trouver une belle occasion d'humilier Paris. Et ne parlons même pas des sanctions européennes ou internationales qui ont déjà fait tomber les conservateurs polonais et risquent d'avoir aussi la peau de Viktor Orban dans quelques mois. Que faire alors? Le seul levier réaliste me semble se trouver au niveau européen. Si la France veut pouvoir à nouveau projeter son influence à l'extérieur, afin de ne pas seulement endiguer le flot migratoire, mais le renverser, elle devra le faire de concert avec ses voisins européens. Mais évidemment, cela impliquerait un revirement total de l'Union européenne. Alors, je sais bien que certains, au contraire, imaginent que seule une libération de la France des contraintes européennes, Schengen, les conventions légales, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pourrait enfin la rendre capable de mener à nouveau une politique indépendante. L'argument semble séduisant, mais il est, hélas, irréaliste. Une sortie de l'Union ou de l'espace Schengen détruirait l'Union européenne et relancerait une compétition politique et économique dont ne bénéficieraient que les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie ou le Qatar, qui tous achèteraient leurs satellites continentaux respectifs. La France redeviendrait au mieux une puissance moyenne, entourée de voisins hostiles, et au lieu de réfléchir comment projeter sa puissance en Algérie ou en Syrie pour endiguer les flots migratoires, elle devrait louvoyer entre la Chine et les États-Unis afin de trouver un accord commercial avec le Luxembourg ou les Pays-Bas. Ce serait relancer la petite guéguerre entre une trentaine d'États européens à un moment où d'autres puissances dominent des continents entiers et nous en devancer technologiquement de nombreuses années.
Mais je reconnais bien là votre habituel catargo d'Hélène d'Aeste, cher David.
Oui, en effet. Mais oui, du moins selon moi, la triste vérité est que le cadre national est plus suffisant pour peser sur les grands mouvements de population du XXIe siècle. Les migrations ne se contrôlent pas à l'échelle d'un poste frontière, mais à celle d'un continent entier. Il n'y aura pas de remigration sans engagement politique et militaire au long terme à l'extérieur du continent. Et si certains crient au néocolonialisme, c'est peut-être un reproche qu'il faudrait supporter, au même titre que toutes les autres grandes puissances du moment d'ailleurs. L'enjeu ne serait donc pas de quitter l'Europe, mais de la refaire pour s'en servir. L'Union européenne, telle qu'elle existe, fonctionne comme un frein à toute politique remigratoire efficace, on le sait. Or, c'est précisément en inversant cette logique, grâce à une coopération intense entre les divers acteurs patriotiques continentaux, que pourrait naître une Europe utile. Une Europe de puissance, capable d'exercer une pression collective sur ses voisins d'Afrique et d'Asie afin de rétablir le contrôle sur ses frontières et sur la composition de sa propre population, et puis surtout sa dignité. Alors une telle Europe devrait lier son aide au développement, ses accords commerciaux et sa coopération sécuritaire au respect de clauses migratoires strictes. Elle devrait parler d'une seule voix sur les dossiers de retour, négocier en bloc avec les pays d'origine, coordonner la logistique, les moyens juridiques et les instruments de contrôle. Et surtout, elle devrait avoir les moyens de pression militaire pour être pris très au sérieux. En somme, il faudrait faire de la remigration non un réflexe défensif et partiel, mais une stratégie continentale de stabilisation et de défense des intérêts européens en dehors des frontières du continent. Car ce n'est qu'en entrant à nouveau dans l'éternelle course avec les autres grandes puissances sur l'influence des zones intermédiaires entre les nouveaux blocs civilisationnels que l'Europe peut créer le glacis géopolitique qui est l'assurance-vie de tous les empires. Ce changement de paradigme implique donc aussi un réarmement conséquent, car la politique migratoire n'est pas une simple question administrative, c'est une question de sécurité nationale et continentale. L'Europe devra redevenir capable d'assurer elle-même la protection de ses frontières, de contrôler la Méditerranée et de mener des opérations extérieures aéroportées coordonnées.
Alors, admettons que vous ayez raison avec ce levier européen. Expulser les clandestins est une nécessité, tout le monde en parle, mais elle ne suffira pas à éviter l'implosion politique qui s'approche à grands pas.
En effet, le défi majeur n'est plus seulement quantitatif, mais aussi qualitatif. Comment intégrer ceux qui sont déjà là, mais qui n'ont aucun véritable lien émotionnel ou affectif avec notre civilisation ? Pire encore, qui la détestent et ne rêvent que de nous déstabiliser par le terrorisme et de nous imposer leur modèle civilisationnel. Des dizaines de millions de personnes d'origine extra-européenne vivent désormais sur notre sol et en Europe. Et dès lors, même si parmi eux, il n'y avait qu'une petite fraction de radicalisés, cela impliquerait néanmoins déjà désormais des chiffres très importants d'opposants à gérer. Or, la plupart, après des générations de séjour en Europe, après l'obtention de la nationalité, et après les multiples aléas des diverses unions familiales et internationales, n'ont nulle part où les renvoyer légalement. Si l'on ne veut pas jouer avec l'idée dangereuse de révoquer la nationalité à des personnes qui la possèdent depuis l'enfance ou la naissance, et parfois depuis des générations, la seule issue à long terme réside dans un programme de réintégration culturelle et civilisationnelle massive. Un programme devant bien évidemment toucher l'entièreté de la population autochtone et étrangère, et devant se solder par des conséquences réelles, et non seulement symboliques, comme par exemple des formes graduées de participation aux devoirs et bénéfices des citoyens, comme on le connaissait dans l'Antiquité. Mais pour intégrer, encore faut-il savoir dans quoi. Et c'est là que l'idée d'une Europe civilisation prend également un certain sens. les identités nationales fragmentées et mutuellement exclusives ne suffisent probablement plus à offrir un horizon commun à des nouveaux venus. Mais développer un patriotisme pan-européen pourrait permettre d'intégrer ceux qui souhaitent vraiment s'enraciner sans leur imposer une identité restrictive qui ne leur correspond pas. Tenter de transformer Saint-Denis en village franco-français modèle semble peine perdue. Imposer une adhésion à un carcan civilisationnel européen, impliquant le respect de notre identité collective, de notre foi, de notre histoire, de nos coutumes et de nos valeurs, pourrait avoir plus de chances de succès. Tout comme les Romains, après la création de l'Empire, ont réussi à intégrer les populations les plus diverses dans la fabrique de leur société par des leviers tels que l'éducation, le culte, le service militaire, l'infrastructure, l'art, l'admission conditionnée dans les structures politiques afin de créer une civilisation de la Romanitas, reconnaissable d'un bout de la Méditerranée à l'autre, nous devrions aussi tenter de créer une Europeanitas qui ne menace pas les identités nationales, mais qui permettrait aux innombrables immigrés de trouver un cadre qui, soit faciliterait leur intégration, soit conditionnerait graduellement leur rejet.
Oui, et leur départ spontané, on imagine. Merci David Engels pour cette chronique. On va essayer, chers auditeurs, de vous parler régulièrement de remigration, puisque c'est un thème qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société, donc on y consacrera une sorte de série. Et David Engels, on ne manquera pas de vous inviter pour en reparler. Merci
avec
beaucoup
plaisir.
Et je vous dis à la semaine prochaine.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit, chers auditeurs, comme je vous le disais, aujourd'hui Xavier Van Lierde est remplacé exceptionnellement par Jean-Yves Le Gallou qui vient présenter son dernier ouvrage. Et je laisse sans tarder la parole à Richard Decez qui mène cet entretien.
Bonjour Liselotte, bonjour chers auditeurs, bonjour Jean-Yves, vous grand remplacé effectivement Xavier Van Lierde. Pardonnez-moi, c'était tout simple. On est en train de parler d'un remarquable ouvrage que vous venez de publier, Remigration pour l'Europe de nos enfants, où vous établissez, si je veux dire, l'état de l'art de la remigration en France, il ne se passe rien. En Europe, il se passe plus de choses et d'un point de vue historique, et c'est tout à fait intéressant, vous nous dites qu'en fait la remigration, c'est une solution dont on parle beaucoup depuis une dizaine d'années, le mot est apparu en 2012 ou 2013 si je ne m'abuse, mais en fait il y a tout un chapitre historique fascinant où vous nous parlez des grandes expériences de remigration qui ont connu un vrai succès au XXe siècle, au XIXe, etc.
Oui, alors il y a eu des remigrations au cours de l'histoire, il y a toujours des remigrations au cours de l'histoire. Certaines sont un peu forcées, mais d'autres peuvent être volontaires. Je prends un exemple, quand l'Union soviétique est tombée, il y a eu deux formes de remigration volontaire. Il y a un certain nombre de Russes d'origine juive qui sont partis volontairement, en Israël, ou de soviétiques d'origine juive qui sont partis volontairement en Israël. Et de même, il y a eu un certain nombre d'Allemands, les Allemands de la Volga, qui sont repartis en Allemagne fédérale. De même que des Russes qui pouvaient être au Kazakhstan ou dans d'autres républiques soviétiques non russes sont repartis vers la Russie. Donc il y a aussi des remigrations volontaires. Bon, il y a aussi parfois des remigrations forcées. Il y a notamment eu en Afrique beaucoup de remigrations forcées. Et il y a eu aussi des remigrations forcées aux États-Unis dans les années 2000, bien avant que Trump arrive. Voilà. Donc, il y a des remigrations. Il y en a qui se placent plus ou moins bien, qui peuvent être aidées. Dans les années 1970, il y avait eu des politiques d'aide au retour menées par Valéry Giscard d'Estaing, qui avait à l'époque comme ministre Lionel Stonnerru. Il y a eu des politiques qui ont eu plus ou moins de succès, puisque les aides au retour ont surtout bénéficié à l'époque à des Portugais, alors que l'objectif était plutôt que ce soit les Algériens qui en bénéficient.
Et à propos d'Algérie, eux aussi ont tenté et réussi une belle expérience de remigration en proposant la valise ou le cercueil. Et il y a un nombre considérable d'Européens qui ont décidé de refranchir la Méditerranée.
Absolument, 1 200 000, je crois. Alors ça, c'est la remigration forcée, tout à fait, qui est une autre forme de remigration qu'on trouve aussi, là aussi, tout au long de l'histoire. Il y a eu beaucoup de remigrations forcées à la fin de la décolonisation, notamment d'ailleurs des remigrations forcées à l'intérieur des nouveaux États africains ou entre nouveaux États africains.
Et on peut aussi parler d'ailleurs aussi des déplacements de population, par exemple au moment de la création du Pakistan, donc là où la partition anglaise a fait en sorte que des millions d'Indiens sont partis de ce qui était devenu le Pakistan pour revenir en Inde, et inversement, avec d'ailleurs évidemment, comme c'était organisé par les Anglais, des millions de morts au passage. Mais ce qui est fascinant dans votre livre, c'est qu'on voit bien que ce concept de remigration qu'on nous présente comme une espèce de chimère, comme une espèce d'impossibilité, comme quelque chose d'horriblement complexe, est en fait continuellement pratiqué depuis des siècles. Et on n'a même pas besoin de remonter au 18e, au 19e, au début du 20e. On est encore en mode remigration sur beaucoup de déplacements de population. Il suffit juste en fait de nommer la chose pour se rendre compte que c'est exactement ça qui se passe. L'ALIA, par exemple, est un mode de remigration.
Absolument, l'ALIA est un mode de remigration volontaire. Il y a aussi eu des remigrations terribles au début du XXe siècle. Je pense par exemple à l'échange de population qui a eu là aussi un peu sur le modèle de ce qu'ont pu faire les Anglais à la fin de la colonisation en Inde. Entre la Turquie et la Grèce, où il y a eu des départs de Turcs vers la Grèce, mais en plus grand nombre des départs de Grecs vers la Turquie. Et c'est une remigration particulièrement bouleversante, celle-là, puisque des Grecs ont quitté la côte ionienne, où ils étaient, où leurs ancêtres étaient, depuis 2500 ans. Donc on voit que la remigration, ça peut prendre un certain temps.
Ça peut prendre un certain temps. Et surtout, ce qui est présenté en France comme étant une chimère raciste est en fait un mode normal de gestion des populations sous beaucoup de latitudes, et une fois de plus, y compris à une date extrêmement récente.
Oui, et c'est une manière d'éviter les conflits, finalement. C'est un conflit momentané, mais qui vise à éviter des conflits beaucoup plus durables, parce que la vérité, c'est que, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, les sociétés multiculturelles sont des sociétés multiconflictuelles, et la remigration est précisément faite pour éviter le conflit permanent.
Alors, cette remigration, vous en faites l'histoire, vous faites, vous parlez de la Reconquista, on met 9 siècles à faire en sorte de repousser l'ennemi et de faire en sorte que l'ennemi remigre chez lui, 9 siècles, c'est un peu lent. Vous avez, évidemment, c'est une remigration européenne à laquelle vous aspirez, et c'est l'idée de défendre en fait une unité qui est à la fois une unité historique, une unité géographique et une unité ethnique.
Oui, alors je crois qu'on mesure mal à quel point il y a une unité derrière la diversité, derrière les conflits, puisque finalement l'histoire de l'Europe, c'est aussi la guerre des monarchies entre elles, la guerre des féodalités entre elles, la guerre des cités grecques entre elles, la guerre des cités italiennes entre elles, au moment de la Renaissance et du Quattrocento, mais derrière tous ces conflits, il y a une unité qui est à la fois une unité civilisationnelle, une unité religieuse, et effectivement une unité ethnique. C'est pour ça que je parle des Européens comme peuple premier en Europe, quel que soit l'endroit où on se trouve en Europe, qu'on se trouve dans le golfe de Finlande ou près du détroit de Gibraltar, les Européens sont issus des mêmes composantes, avec des proportions qui peuvent être un peu différentes, composantes des chasseurs-cueilleurs, qui remontent à 40 000 ans, c'est les grottes ornées, la grotte Chauvet, composantes qui remontent à 40 000 ans, une composante d'agriculteurs anatoliens qui sont arrivés il y a moins de 10 000 ans, et puis la composante indo-européenne qui est arrivée il y a un peu plus de 5000 ans. Et ces trois composantes se retrouvent chez tous les Européens contemporains, dans des proportions peut-être un peu différentes d'un pays à l'autre et même d'un individu à l'autre. Mais ces trois composantes se trouvent et fonctionnent comme une grande unité, on va dire, d'origine, une grande unité génétique. Et c'est une unité qui remonte, comme je l'ai dit, à des temps très anciens et dans la forme actuelle à plus de 5000 ans. C'est-à-dire que quand on nous dit, par exemple, la France est un pays d'immigration, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague parce que le peuplement européen, il remonte à 5000 ans, il n'a pas été profondément modifié depuis 5000 ans, et le peuplement français remonte lui aussi à 2000 à 3000 ans avec des petites modifications finalement à la marge. Et quand nos amis venus d'ailleurs appellent les Français des Gouers ou des Gaulois, ils n'ont pas tout à fait tort, parce que fondamentalement, la population française telle qu'elle est aujourd'hui, ou plus précisément telle qu'elle était en 1960 ou 1970, avant l'arrivée des masses venues d'ailleurs, c'était la même population à peu de choses près qu'à l'époque de l'Empire romain ou même avant l'Empire romain. Le substrat français n'a pas fondamentalement changé depuis plusieurs milliers d'années, jusqu'en 1960.
Yeah. Au passage, la carte des tribus gauloises correspond à peu près à la carte des départements. Donc c'est une espèce de permanence absolument incroyable où on voit bien qu'il y a vraiment une façon d'être installé, d'habiter un territoire qui n'a pas varié des siècles et même des millénaires durant. Aujourd'hui, cette remigration, elle devient nécessaire parce qu'il y a un double mouvement. D'une part, il y a des gens qui arrivent par centaines de milliers chaque année. On en parle régulièrement sur Radio Courtoisie. C'est l'équivalent de plusieurs villes moyennes qui débarquent tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Il y a une profonde immigration. Et donc, ce n'est pas des migrants, ce sont des gens qui immigrent, ils restent chez nous. Et
des colonisateurs. Et c'est une colonisation de peuplement. C'est la différence entre la colonisation européenne en Afrique, qui était une colonisation de protectorat, où on envoyait quelques hommes qui encadraient, et la colonisation actuelle, qui est une colonisation de peuplement, puisqu'on occupe des territoires.
On occupe des territoires dont on change d'ailleurs les coutumes, puisque voilà, il y a des gens qui prêchent maintenant l'établissement de la charia en France, et on se souvient tous de ces sondages assez inquiétants où la moitié de la population musulmane, pourvu qu'elle ait moins de 35 ans, considère que la charia doit déplacer les lois de la République. Mais il y a un autre mouvement qui est celui de la chute démographique, en fait. Donc, cette unité européenne, cette unité des peuples premiers européens, elle est menacée parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, oui, et qui ne sont pas européens, et parce que les Européens font moins d'enfants.
Oui, et que parmi les gens qui arrivent, même si parmi les gens qui arrivent, les taux de fécondité diminuent, les taux de fécondité diminuent dans le monde entier. Mais évidemment, pas avec la même vitesse. Et donc, il y a un décalage, en quelque sorte, dans le temps. C'est-à-dire que le grand remplacement, vous savez, Renaud Camus dit, le grand remplacement, moi, les statistiques ne m'intéressent pas, ouvrez les yeux. C'est une première approche qui est tout à fait pertinente. Mais on peut aussi regarder les choses à travers des statistiques. Et donc, il y a deux phénomènes qui font que nous risquons, nous, Européens de souche, de devenir minoritaires d'ici 10 ans, en tout cas, minoritaires dans les berceaux, dans les maternités. C'est un double mouvement, l'arrivée de populations nouvelles, et un différentiel de taux de fécondité, puisque les taux de fécondité des gens venus d'Afrique ou du Maghreb sont plus élevés que les taux de fécondité des Européens de souche. Et donc, on voit très bien que ce basculement, en tout cas au niveau des maternités, il va arriver très vite dans à peu près tous les pays d'Europe. Le phénomène est le même partout. Et ça qui est
le phénomène est le même partout. Et on voit bien d'ailleurs que beaucoup de pays en Europe, y compris des pays de gauche ou des pays gouvernés par la gauche, ont décidé de stopper l'immigration, d'encourager les départs. Et il suffit de voir d'ailleurs les résultats dans le nord de l'Europe où les gouvernements qui ne sont pas du tout des gouvernements de droite ni même de centre, mais plutôt des gouvernements de gauche, ont des politiques anti-immigration très fermes, avec d'ailleurs des résultats probant sur le fait de reconstituer une unité culturelle, une unité historique, une unité nationale autour de l'idée que n'importe qui ne peut pas prétendre être suédois ou danois. Et on espérerait qu'en France, n'importe qui ne puisse pas prétendre devenir français sous prétexte qu'il a franchi la frontière, y compris d'un point de vue illégal. Mais en France, cette remigration a des obstacles qui sont d'une part... le fait que politiquement, ça se porte mal et que juridiquement, c'est devenu horriblement compliqué.
Alors, là aussi, on a à peu près le même phénomène dans tous les pays européens. C'est que la politique migratoire, elle est conduite de fait par les juges. Voilà. Est-ce que vous savez qui est Monsieur Thierry Andrieux ?
J'ai lu votre livre, en fait.
Vous avez lu mon livre. Bon, eh bien, c'est l'homme que personne ne connaît. Qui fait rentrer le plus d'immigrés en France, 60 000 chaque année au titre du droit d'asile. C'est le président de la Commission nationale du droit d'asile. C'est un parfait oligarque inconnu. Énarque, fils d'énarque, gendre d'énarque, marié à une énarque. Enfin, je peux me permettre de critiquer les énarques, mais là, c'est très, très endogamique en quelque sorte. Et c'est lui qui nous fait rentrer chaque année 60 000 immigrés au titre du droit d'asile. Vous avez aussi le Conseil d'État, vous avez le Conseil constitutionnel qui bloque les lois. Vous savez qu'il y avait eu deux ans une loi très modeste qu'avait défendue M. Darmanin comme ministre et M. Retailleau comme président du Sénat. Eh bien, le Conseil constitutionnel avait balayé toutes les rares mesures restrictives. Il avait gardé les mesures d'ouverture et balayer les mesures restrictives. Et donc, l'immigration aujourd'hui, ce sont les juges qui la font. Ce sont les juges qui la font. Mais ce n'est pas seulement en France, c'est-à-dire qu'il y a à peu près dans tous les pays, soit des cours constitutionnelles, soit des hautes cours, le nom varie d'un pays à l'autre, mais des forces de blocage. Et c'est pour cela que... je ne traite pas forcément des questions très techniques dans ce livre. La question n'est pas de savoir s'ils repartent en Boeing
ou en
Airbus ou en bateau. C'est pas ça. La question centrale en France et dans les autres pays européens, c'est ce que j'appelle le juge exit, c'est-à-dire la reprise du pouvoir par les peuples à travers le référendum notamment ou à travers les législateurs, les parlementaires. Au détriment des juges qui sont aujourd'hui les acteurs totalement irresponsables, de l'immigration de masse que les Français, les Allemands, les Italiens, les Suédois subissent. Je cite les Suédois parce qu'il y a des projets assez fermes en Suède, notamment de révision du code de la nationalité suédoise, et qui se heurtent à une décision de la Cour suprême suédoise qui n'a pas encore tranché, mais qui ralentit la procédure. Voilà.
Et il y a dans votre ouvrage un schéma tout à fait fascinant qui est la manière. Enfin, il y a plusieurs schémas, mais il y en a un qui est vraiment épatant, qui est la manière dont les gens jugent dans différents pays de la nécessité d'avoir des immigrés et la manière dont la classe politique de ces mêmes pays juge de cette nécessité. Et il y a des décalages de 10, 20, 30, 50% entre on interroge tout le monde. Et voilà, dans au moins 5 ou 6 pays, la France d'ailleurs ne fait pas partie du schéma que je cite. Dans 5 ou 6 pays, l'immense majorité des gens considèrent que les étrangers ont le droit d'être là, mais on n'a pas besoin de leur donner tous les droits, ils n'ont pas forcément le droit d'être là non plus. Et au contraire, la classe politique dans son ensemble, donc là aussi, de l'extrême droite à l'extrême gauche, est en décalage complet avec la perception de la population.
Totalement. Alors, ça s'explique de deux manières. D'abord, la classe politique, elle est soumise, ou les classes politiques en France ou ailleurs, soumises à la doxa médiatique. Et donc, il y a une soumission permanente. J'entendais encore, il y a quelques jours, un représentant, M. Jacobelli, du Rassemblement National, nous expliquer à quel point l'islam était compatible avec la République. Bon, donc,
et à quel point l'AFD était un parti abominable.
Voilà. Donc là, on est vraiment dans la doxa, y compris dans un mouvement qui devrait être quand même un peu plus dissident que les autres. Dans la réalité des choses, c'est les juges qui décident. Et donc, d'ailleurs, les hommes politiques, ils ont au fond deux alibis. Ah, on voulait le faire, mais alors soit c'est l'Union européenne qui nous l'a empêché, soit c'est les juges qui ne nous le permettent pas. Donc, ils sont là, ils discourent, en France et en Europe, les hommes politiques discourent, et les juges conduisent les politiques avec la bénédiction des médias, et vous voyez à quel point les médias et les juges fonctionnent l'un avec l'autre, puisque les médias expliquent que tout ce qui reviendrait à remettre en cause le pouvoir des juges sera une atteinte terrible à l'état de droit, alors que ce serait simplement un changement dans l'état de droit.
Voilà, et les juges sont là pour faire appliquer le droit et non pas pour l'inventer en permanence. Vous venez de dire l'Union européenne, ça tombe bien, on a l'impression que justement c'est en train de bouger et que le PPE et l'ensemble des partis de droite qui représentent qui sont présents au Parlement européen sont en train de réussir à faire voter des lois qui permettent d'accélérer le retour, qui permettent d'avoir des pays tiers, qui permettent d'assouplir les règles de l'Union européenne. Notamment, il y a de plus en plus de pays sûrs, puisque c'était l'un des grands arguments des juges, on ne peut pas renvoyer quelqu'un dans son pays parce que son pays marche très mal. Et donc là, non, ça y est, brusquement, il y a plus de pays sûrs qu'auparavant.
Oui, alors, je trouve extrêmement positif le vote qui a eu lieu au Parlement européen, dans la Commission des libertés. Je trouve ça très, très positif, notamment par la structure du vote. C'est-à-dire l'alliance entre les trois groupes de droite ou les trois groupes identitaires, patriotes. Si on transpose en modèle français, on a Bardella, Marion Maréchal, Knafo. Si on transpose en modèle européen, on a les Italiens de Madame Meloni, on a l'AFD allemande et on a le... Oui, les Hongrois, donc ça c'est une coalition avec, et ça c'est nouveau,
le PPE.
Avec une partie du PPE. Alors, je crois qu'il faut quand même rester triplement prudent par rapport à cela, même si c'est extrêmement positif. Même si c'est extrêmement positif, il faut rester prudent pour trois raisons. La première, c'est que c'est un vote dans une commission. Attendons le vote en plénière. La deuxième raison d'être prudent, c'est qu'ensuite, ça va être négocié entre le Parlement et la Commission. Donc, il va y avoir probablement des amodiations. Et la troisième raison, c'est qu'au final, ce seront les juges qui décideront, en France et ailleurs. Et les juges peuvent parfaitement dire, oui, il y a ce règlement européen, bien sûr, qui normalement s'applique de manière et au-delà de la loi et même de la Constitution. Mais il y a... la Convention européenne des droits de l'homme, et en fonction de notre interprétation des textes de la Convention européenne des droits de l'homme, bah on pense ceci plutôt que cela. Donc ce n'est pas encore acquis,
disons
mais
que c'est un pas
ça
dans la bonne
va
direction.
Vraiment dans le bon sens. Et je peux vous dire, ça va d'autant plus dans le bon sens que la Commission des libertés au Parlement européen a souvent été une commission très axée à gauche.
Et donc là, c'est en train de basculer. Dans votre livre, donc, Remigration pour l'Europe de nos enfants, on a le sentiment que voilà, il faut ce juge exit. On a le sentiment d'une part que vous établissez bien le bon diagnostic, ensuite qu'il faut ce juge exit, et que après, c'est le chapitre équité et fermeté que on peut effectivement encourager les gens à repartir chez eux, voire dans certains cas, dire les criminels, les forcer à repartir chez eux, sans que ce soit en fait une impossibilité logistique, sans que ce soit un crime contre l'humanité. Autrement dit, on peut faire en sorte de choisir en fait notre immigration et on peut faire en sorte de choisir notre remigration.
Absolument, ce n'est absolument pas un problème logistique. Ce n'est absolument pas un problème logistique, c'est un problème psychologique. Est-ce qu'on est prêt ? Le problème psychologique, il est double. Premier problème, c'est que jusqu'ici, on a traité les problèmes de l'immigration du point de vue de l'immigré. Est-ce que c'est bien pour lui ? Est-ce qu'on peut le renvoyer ? Voilà, il faut traiter le problème de l'immigration du point de vue du pays d'accueil, du point de vue des gens qui accueillent, des gens qui souffrent de l'excès d'immigration dans leur quartier, du peuple historique qui a le droit de survivre. Donc c'est un basculement copernicien qu'il faut avoir. On se place de notre point de vue, pas du point de vue de l'autre. Vous savez, c'est Big Other, la formule de Raspail. Eh bien, non, il faut cesser Big Other. Il faut d'abord penser aux nôtres, les nôtres avant les autres. Ça, c'est le premier basculement. Le deuxième basculement, il faut admettre l'idée, même si c'est en dernier recours, il faut admettre l'idée du recours à la force. Et cela, je ne suis pas le seul à le dire. Monsieur Védrine, qui a été secrétaire général de l'Élysée à l'époque de Monsieur Mitterrand, qui a été ministre des Affaires étrangères de Monsieur Mitterrand, a dit, à propos d'ailleurs de l'immigration, en 2015, lorsqu'il y a eu la vague migratoire considérable, un jour, le recours à la force sera inéluctable. Et je crois qu'on ne peut pas fermer l'idée du recours à la force.
Et dans votre ouvrage, il y a d'ailleurs tous les exemples des pays africains contemporains qui ont recours à la force d'une manière très régulière pour remigrer ceux qui sont juste indésirables. Donc, autrement dit, la chose est admise, la chose est pratiquée, et on n'entend pas les cris d'orfraie des uns et des autres quand il s'agit pour la Tunisie de préserver son espace historique. Jean-Yves Le Gallou, merci beaucoup. J'encourage à nouveau tout le monde à lire cet ouvrage, Remigration pour l'Europe de nos enfants, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et évidemment, j'espère qu'on Radio Courtoisie vous offrira une tribune beaucoup plus large pour pouvoir en parler plus en détail.
Merci de cette première expérience, en tout cas.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite.
Pour ce Debout les Français, chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir Martin Sellner, activiste identitaire autrichien, qui nous fait le plaisir donc de venir dans nos studios, venir nous voir dans les locaux de Radio Courtoisie. Alors Martin Sellner, vous êtes donc activiste identitaire autrichien et vous êtes la figure qui a popularisé la remigration à travers l'Europe. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et surtout revenir sur votre parcours ?
Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici. Et oui, je suis un auteur et militant autrichien. Et la première chose que je dois dire au public français, c'est désolé, excusez-moi, car nous avons emprunté le terme de remigration à la France. C'est Génération Identitaire qui l'a utilisé en premier dans un contexte politique. Mais à partir de 2021, nous avons créé un mouvement de fond qui a maintenant atteint même l'Amérique avec Trump. Musk retweet le terme de remigration. Et c'est aussi ma mission. J'essaye de rendre la remigration courante parce que je pense que, d'abord, nous devons être libres d'en parler dans le débat. Et ensuite, cela pourra devenir une réalité politique.
Donc la remigration, c'est un projet qui est très souvent caricaturé. On entend beaucoup de médias en parler, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement quel est le concept de la remigration ?
En fait, la remigration n'est pas très... La remigration n'est pas sorcier, donc ce n'est pas très compliqué. En gros, cela signifie simplement que nous restons ici et qu'ils partent, pour dire les choses simplement. Mais pour entrer un peu plus dans les détails, cela ne signifie évidemment pas que tout le monde part, mais la remigration signifie que les clandestins doivent partir, les gens qui n'ont pas la citoyenneté, qui ne contribuent pas, qui commettent des crimes, qui sont un fardeau pour l'économie, doivent partir. Mais il y a aussi un troisième groupe de citoyens non assimilés, des gens qui ont été naturalisés, qui n'auraient jamais dû être naturalisés pour former des sociétés parallèles. Et ici, la remigration signifierait d'exercer une pression économique et culturelle sur ces sociétés parallèles, tout en créant des incitations.
Pour un retour volontaire au pays, d'accord. Et justement, comment cela pourrait concrètement s'articuler, s'orchestrer efficacement, de manière politique et surtout diplomatique, avec les pays concernés, notamment ceux dont sont originaires les ressortissants ?
Je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense que s'il a été possible que des millions de personnes entrent ici illégalement, il sera possible que des millions de personnes partent légalement. Nous venons d'avoir une décision très importante au Parlement européen selon laquelle on peut créer des centres de retour hors d'Europe. Et cela résout le problème, par exemple, des pays qui reprennent leurs clandestins immédiatement parce que nous pouvons tous les amener là-bas. Je pense que si les gens disent que c'est impossible, cela signifie que nous ne voulons pas le faire.
Je
ne pense pas que nous devions être trop sur la défensive ici. La remigration plutôt que la résignation. Et au moins, nous devrions essayer. On devrait d'abord essayer et voir si ça marche.
Vous pensez qu'il y a un manque de volonté politique derrière toutes ces personnes qui sont réticentes à l'idée de la remigration ? En réalité, c'est qu'ils ne veulent peut-être pas une vraie coupure avec l'immigration illégale, comme légale d'ailleurs.
Absolument. Je suis absolument convaincu que les politiciens, surtout aussi malheureusement les conservateurs, ne font que des signes à la droite, mais ils restent sur cette voie d'autodestruction. Il y a un manque de volonté politique. Et bien sûr, la gauche veut maintenir les flux migratoires parce qu'ils en profitent. Ils importent leurs électeurs. Vous avez toute l'industrie de l'asile. Ils tirent beaucoup d'argent de l'immigration de masse. Et je pense que les forces de droite, les patriotes qui sont pour la remigration, sont dispersés. Ils ne sont pas assez puissants. Et nous devons former cette volonté politique pour faire de la remigration une réalité. Mais si nous sommes assez forts, si cette volonté politique est formée, alors ce n'est pas du tout un problème de le faire. C'est arrivé tout le temps dans l'histoire. Il y a beaucoup de nations qui le font en ce moment, et nous, Européens, pouvons faire de même.
Vous, en tant que personne qui a popularisé la remigration au sein du débat public et notamment dans toute l'Europe, comment vous avez fait véritablement pour mettre sur le devant de la scène une idée quand même comme ça qui est extrêmement controversée ?
C'est dur, c'est compliqué, mais ça marche et c'est la beauté de la normalisation. Et aussi, je dirais, c'est comment la diabolisation de la gauche se transforme en propagande et en promotion pour nous. Donc en essayant de me diaboliser, en essayant de diaboliser l'idée, la gauche a rendu l'idée populaire. Et c'est un peu comme dans le film « Pirates des Caraïbes », vous savez, avec Johnny Depp. Et il y a cette scène où le gars dit « Vous êtes le pire pirate dont j'ai jamais entendu parler ». Et la réponse est « Mais vous avez entendu parler de moi ». Et c'est exactement la même chose avec la remigration. Des millions de personnes en ont entendu parler. Et ce que nous essayons de faire, c'est de la normaliser. Et en la répétant simplement, nous créons cette idée, cette image dans l'esprit de millions de personnes en leur donnant de l'espoir. Et je pense que c'est ainsi que nous pouvons faire de la remigration une réalité. La normaliser, la répéter, l'expliquer aux gens jusqu'à ce que le rêve devienne une réalité politique concrète.
Et vous pensez que la majorité des Européens, qui sont d'ailleurs pour beaucoup aujourd'hui anti-immigration, puisqu'on le voit, il y a plein de candidats de droite qui arrivent très souvent très haut dans les sondages, voire qui gagnent les élections, vous pensez qu'un projet comme la remigration peut véritablement les fédérer et donc les mettre tous d'accord pour appliquer une telle politique ?
Oui, je pense que c'est possible, parce que vous avez déjà les majorités dans les sondages, comme vous l'avez dit. Ce qui nous manque maintenant, ce sont des partis politiques qui l'appliquent. Et je pense qu'il y a un grand rôle à jouer pour les médias alternatifs, pour des formats comme Radio Courtoisie, mais aussi pour des mouvements comme le mien, parce que la gauche gagne non pas parce qu'elle a le Parlement. Le vrai pouvoir est en dehors du Parlement, le pouvoir est dans la rue. Des mouvements comme Black Lives Matter, Fridays for Future, et c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est aussi un appel de ma part à tous les patriotes français qui nous regardent. Il ne suffit pas, si vous voulez sauver la France, de mettre un petit morceau de papier dans une boîte en plastique tous les 4 ou 5 ans. Non, il faut faire plus. Et c'est pourquoi nous devons faire de la remigration un immense mouvement citoyen en Europe.
Alors effectivement, les Européens et même les Français finalement font de moins en moins confiance aux politiques, puisqu'ils sont très très souvent déçus. Mais il y a quand même quelques partis politiques de droite qui sont courageux. Nous, en France, on a celui d'Éric Zemmour, Reconquête, qui d'ailleurs prône la remigration, c'est le seul parti de droite à la prôner. Il y en a aussi également en Italie, en Allemagne aussi, avec l'AFD. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui doit être mené à l'échelle européenne ? Ou alors est-ce que la remigration peut arriver à ses fins ? Seulement si quelques pays en Europe l'appliquent, ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose de global ?
C'est une très bonne question. Je dois dire que les deux me conviendraient. S'il y a une alliance d'États pour la remigration hors d'Europe, par exemple, comme les États de Visegrad, si cela nous mène au but plus tôt, ça me va. Mais compte tenu de la très bonne évolution au niveau européen, avec cette nouvelle résolution où même les conservateurs travaillent avec la droite dure, je pense qu'il y a vraiment une chance que la réforme vienne du niveau européen. Et en termes de remigration, on a vu tant de partis politiques adopter le terme, pas seulement l'AFD et le FPE, mais aussi Vox, Chega et Restore Britain. Incroyable. Je dirais qu'ils devancent tous les autres partis de droite en termes de politique. La politique d'expulsion est incroyable. Et ma vision est aussi que tous ces différents partis européens s'inspirent les uns les autres. Et comme vous le savez peut-être, je fonde un think tank en ce moment, l'Institut pour la Remigration. Nous voulons devenir le catalyseur de ce discours. Et je pense qu'un jour nous serons assis ici et que le Rassemblement national aussi parlera enfin à nouveau de remigration. C'est mon espoir pour la France.
Merci pour cet espoir. On espère que ce sera le cas également. Alors vous le savez, avoir de telles idées, prôner de tels projets, eh bien ça a un prix. Vous subissez beaucoup l'acharnement judiciaire. Il y a plusieurs pays en Europe dans lesquels vous êtes malheureusement interdit de vous rendre.
Eh bien, juste quelques faits sur ma vie. J'ai été devant les tribunaux pour formation d'organisation criminelle, acquitté, puis organisation terroriste, acquitté aussi pour incitation à la haine. Discours de haine. J'ai perdu 116 comptes bancaires. Ma voiture a été brûlée par les Antifa. J'ai eu 3 perquisitions à domicile. Alors oui, ça a coûté cher. Il n'y a pas de liberté d'expression en Europe. Si vous parlez de certaines choses, cela, c'est un prix très, très lourd à payer. C'est comme Idi Amin disait en Afrique, je peux garantir la liberté d'expression, mais pas la liberté après l'expression. Malheureusement, si vous dites quelque chose en Europe, vous devez en payer le prix fort. Mais nous le faisons volontiers, car nous savons que nous facilitons les choses pour ceux qui suivront. Nous sommes une avant-garde, nous sommes comme un brise-glace. On encaisse les coups durs. Mais derrière nous, on voit que ça se normalise, que la jeunesse vire à droite. Il suffit d'ouvrir TikTok pour voir ce qu'il se passe. Donc je pense que tous ces efforts paient.
Qu'est-ce que vous répondez à cette gauche qui dit que la remigration, donc ça viendrait à l'encontre du droit humain, notamment pour les immigrés, ceux qui viennent en France, etc. La gauche explique sans cesse que ça serait donc finalement les couper de leurs droits fondamentaux. Est-ce que finalement le droit le plus important, c'est pas aux Européens de rester dans l'Europe dont ils ont toujours connu, qu'ils ont toujours connu ?
Je pense qu'il n'y a pas de droit de l'homme à vivre parmi les Européens. Il n'y a pas de droit de l'homme pour le monde entier à venir en France et devenir français. Ça ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Et je dois dire que je pense que la remigration est aussi l'alternative la plus humaine. Parce qu'au final, nous voulons aider les gens dans leur propre pays. Nous voulons les aider à y prospérer. Nous voulons les aider à s'y créer des perspectives. Et la remigration n'est vraiment pas un projet hostile envers les migrants. Je n'ai rien contre les gens. J'essaie d'être toujours amical avec tout le monde. Mais évidemment, nous devons fixer une limite ici. Et je pense que aider les gens là-bas, démanteler ces réseaux de passeurs qui sont des criminels brutaux, souvent des terroristes islamistes, sera au final bénéfique pour ces nations. Elles perdent toute leur capacité intellectuelle. Et je pense que oui, ce sera difficile. Ce sera un projet difficile au début. Mais à long terme, ce sera mieux pour nous et pour les autres, car l'avenir de l'Afrique n'est pas en Europe.
Vous avez été porte-parole du sommet de la remigration à Milan, donc qui s'est déroulé l'an dernier. Cette année à Porto, on imagine que vous y serez à nouveau. J'y serai aussi d'ailleurs, chers auditeurs, je vous ferai un reportage. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau sommet à Porto cette année ?
C'est un événement vraiment incroyable. Je suis très heureux que nous l'ayons lancé. Cette année, ce sera bien plus important. Et je crois aussi que vous y étiez la dernière fois. On a eu des ennuis avec les Antifa et les médias. Cette fois-ci, ce sera un peu plus calme. Beaucoup plus de gens, politiciens, influenceurs, intellectuels, journalistes comme vous, se réuniront. Parce que c'est quelque chose que nous devons aussi apprendre de la gauche. Pas seulement l'activisme de rue, mais aussi les conventions. Ils ont toutes les conventions. Ils sont parfaitement mis en réseau, ils travaillent tous ensemble. Et nous, identitaires et patriotes européens, nous ne nous connaissons souvent même pas. Cela doit changer et le sommet de la remigration doit devenir le cœur de ce mouvement en Europe. In Europe.
Quand est-ce que vous pensez que la remigration pourra-t-elle vraiment être appliquée ? On nous dit souvent que si en 2050 ça continue ainsi, eh bien l'Europe finalement sera grand remplacée. Ce terme que vous connaissez, j'imagine, très bien. Si la remigration n'est pas appliquée avant 2050, est-ce que ça sera un petit peu la mort de l'Europe ?
Absolument. Nous avons donc un délai très court, car le problème est qu'actuellement les Français sont encore majoritaires. C'est pareil en Allemagne et en Autriche. Mais notre majorité est composée de baby-boomers, de gens qui sont assez âgés. Et si vous regardez les gens comme vous, les femmes européennes blanches qui sont encore jeunes, c'est seulement 1,2 ou 1,3% de la population mondiale. Et en Allemagne, sur une nation de 83 millions d'habitants, il ne reste que 11 à 12 millions de femmes allemandes de souche de moins de 40 ans. Nous sommes donc déjà enceintes d'un califat islamique en France et en Allemagne. Et nous avons environ 10 à 15 ans pour inverser la tendance, pour créer une forteresse européenne, pour renvoyer chez eux les millions de personnes qui sont venues et qui n'ont pas leur place ici. Et si nous ne le faisons pas, nous serons confrontés à un scénario à l'Africaine du Sud. Ce serait une horreur pour nos enfants. Et ceux qui pourront s'échapper quitteront l'Europe, et les autres auront une vie horrible et vivront comme des prisonniers dans leur ancien état. Nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver nos enfants de ce sort et entamer la remigration.
Merci beaucoup Martin Sellner d'avoir été avec nous dans ce Debout les Français. Alors oui, effectivement, c'était un honneur de vous recevoir. On espère vous retrouver très vite dans les locaux de Radio Courtoisie puisque vous serez évidemment toujours le bienvenu. Et puis moi, je vous verrai donc à Porto pour ce sommet de la remigration qui promet d'être un franc succès comme le précédent. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Roberto Vannacci, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre bureau à Bruxelles, votre nouveau bureau. Vous êtes, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes un ancien général italien qui avait été déployé sur beaucoup de champs d'opération. Et puis, il y a quelques années, vous vous êtes mis à la politique avec la publication de votre livre, donc le Il Mondo al Contrario, donc le monde à contre-courant.
Au contraire,
exactement. en France. Et effectivement, ce livre a été un grand succès. Vous avez ensuite rejoint le parti de Matteo Salvini, la Lega. Et désormais, vous lancez votre propre parti. Vous avez vos propres ambitions nationales en Italie. Donc, on va essayer de voir un petit peu quel est votre constat. Déjà, partons de ce livre qui vous a vraiment... vous étiez déjà un peu connu, mais qui vous a vraiment fait connaître particulièrement dans toute l'Italie. Ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est qu'il a été vendu à plus de 360 000 exemplaires. Donc, déjà, qu'est-ce que vous avez senti dans l'Italie, dans le peuple italien, quand vous avez publié votre livre ?
Tout à fait, je suis un général. J'ai été un général de l'armée italienne. J'ai passé 39 ans dans l'armée, déployé un peu dans tous les champs d'opération où l'Italie a participé. Et après, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui n'est pas un livre politique, qui est un livre qui traite des problèmes sociaux, des problèmes de notre société. Et qui m'a rendu un peu fameux. Il a été vendu. Bon, il a créé un scandale en Italie parce que c'est un livre assez direct qui parle des problèmes que souvent ne sont pas traités de façon directe et ouverte par beaucoup de politiciens ou par beaucoup de personnes qui traitent les problèmes sociaux. Et ce qui m'a valu une suspension de l'armée. Et après ça, j'ai décidé de comme l'opportunité m'a été offerte de passer à la politique, je suis passé à la politique tout à fait avec le parti de la Lega, avec Matteo Salvini. J'ai servi dans la Lega à peu près pendant un an et demi. Et après, vu une incohérence que j'ai relevée dans ce parti, j'ai décidé de fonder mon même mouvement politique, un mouvement politique qui soit de référence à mon nom et à ce que je crois. Et qui a été fondé il y a un mois en Italie, qui est en train de poser ses racines dans la structure régionale et nationale italienne. Alors, voilà très, très brièvement l'histoire.
Alors, on parlera effectivement, on va revenir un petit peu sur tout ça pendant cet entretien. Mais donc, sur votre livre, qui encore une fois vous a fait vraiment connaître du public italien, qu'est-ce que vous avez senti dans le peuple italien ? Quelle était, selon vous, la réaction de l'Italie par rapport à votre livre ?
La majeure partie des personnes qui ont lu le livre, elles ont dit que c'était les pensées que tout le monde voulait dire, mais que personne ne disait. Pour la peur d'être marginalisé, d'être discriminé, d'être traité de fasciste, de naziste, de raciste, de négationniste. Et c'est ce qui m'est arrivé, en effet, après la publication du livre. Mais à la fin, il y avait rien de tout ça. J'ai été mis en examen aussi pour ce livre, mais tout ça a été résolu avec une absolution complète de la part de la justice italienne. Donc c'était seulement des accusations gratuites qui m'ont été faites. Et c'est ce qui a apporté un peu de notoriété en Italie, enfin, une notoriété assez relevante, et qui m'a permis de passer à la politique, de passer les élections européennes en 2024, en étant le candidat, moi je suis le député européen italien le plus élu parmi les 76 députés italiens.
Et alors, il y a d'autres personnes qui... Il y a une autre personne en France qui a un parcours qu'on pourrait rapprocher un petit peu du vôtre. Alors lui, c'est pas un militaire, pour le coup. C'est pas exactement son style, mais il est effectivement, il s'est fait connaître aussi par ses livres pour finalement se lancer dans la politique. C'est Éric Zemmour. Est-ce que, d'ailleurs, on entend que vous êtes parfaitement francophone. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'Éric Zemmour? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait dire que finalement, en fait, il existait une autre voie pour la politique? Est-ce que même vous reprenez l'idée de la remigration qu'il avait aussi beaucoup mise en avant? Est-ce que c'est un modèle pour vous d'une certaine façon?
Alors, je ne connais pas personnellement Éric Zemmour, bien sûr, j'en ai entendu parler. Je ne me suis pas inspiré à lui parce que je n'ai pas une connaissance profonde de ce qu'il a fait, de ce qu'il est et de ce qu'il a construit en France. Ouais. Mais c'est vrai, on a des analogies, hein. Bon, c'est pas le passé. Lui, c'est un essayiste. C'est une personne qui provient du milieu de la culture, du journalisme. Moi, je viens d'un autre milieu, totalement différent. Mais je crois qu'on est les deux. On croit un peu dans les mêmes principes, dans les mêmes valeurs. On est sûrement convaincu que la nation, l'État, est un des éléments qui sont à la base de la puissance des peuples. Donc on est sûr, on est convaincu que la souveraineté de cet État ne peut pas être cédée à des entités transnationales. On est convaincu de la base identitaire des peuples. C'est ce qui fait un peuple, c'est son identité qui ne peut pas être diluée, qui ne peut pas être changée en peu de temps, et dont on prend la force, on prend la raison d'être, la cohésion sociale. Et surtout, on est les deux convaincus que la migration sans contrôle a été un des faits qui a miné la société occidentale et un des faits dont on doit trouver une solution, dont la rémigration est une des solutions qui peuvent s'appliquer et qui doivent s'appliquer si on veut continuer à exister comme société occidentale, comme société française, comme société italienne.
Est-ce que le fait que vous ayez passé des dizaines d'années justement à être militaire et finalement à être général, ça vous a donné une... On va dire ça a apporté quelque chose même à votre vision de tous ces sujets de l'identité, tous ces sujets de l'État. Enfin, comment ça a agi selon vous sur votre manière de voir ça?
Ben c'est sûr, le passé construit le présent, donc mon passé en tant que militaire a sûrement construit mon présent en tant que politicien. L'expérience que j'ai fait dans les zones d'opération en voyant le monde vrai, c'est pas le monde qu'on voit dans les villages vacances ou qu'on voit quand on va pour des raisons de tourisme à l'étranger, c'est le monde vrai qu'on voit quand on va dans un territoire où il y a des opérations militaires qui doivent être conduites. Et donc, aussi, la formation en tant que militaire, l'être toujours concentré sur le but à rejoindre, ce sont des éléments qui m'ont formé aussi en tant que politicien. L'avoir un discours qui est toujours direct, qui est toujours visé à un objectif, je pense que c'est des éléments qui viennent de mon passé en tant que militaire, bien sûr.
Vous utilisez le terme de remigration. Il y a beaucoup de partis dans toute l'Europe, même de droite, qui ont peur d'utiliser ce mot. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le mettre quelque part dans votre programme?
Moi, je n'ai pas peur, absolument. Premièrement, parce que je ne crois pas que la rémigration soit un terme qui a été créé par l'extrême droite. Il y a un ouvrage de l'OECD, l'Organisation pour le Développement Européen, qui parle de rémigration. C'est un phénomène qui est concret, qui existe. Rémigrer veut dire pour un étranger retourner au pays d'origine. C'est un phénomène volontaire la plupart du temps. C'est un phénomène qui peut être facilité, mais c'est un phénomène aussi qui peut être forcé. Et il doit être forcé là où il y a des problèmes, là où on se réfère par exemple à tous les étrangers qui n'ont aucun droit de rester dans le pays qui les auberge. Ceux qui sont entrés dans ce pays par des moyens illégaux doivent retourner au pays d'origine. Il s'adresse aussi à tous ceux qui commettent des crimes ou qui ne respectent pas les lois et les normes du pays qui les auberge. C'est normal. C'est le premier des devoirs d'un citoyen, respecter les lois et les normes. Donc si un étranger ne respecte pas les normes et les lois d'un pays, il doit rentrer chez son pays d'origine. Mais il est référé aussi à toutes ces sociétés qui ne sont pas compatibles avec la nôtre. Et alors on me pose souvent la question, mais quelles sont les sociétés qui ne sont pas compatibles avec la nôtre? Je vous fais un exemple qui est référé à la France. Il y a eu un sondage IFOP il y a quelques mois qui a révélé que le 59% des jeunes musulmans, je pense, le 51 ou 59, je ne me rappelle pas exactement, mais voudraient que la charia soit appliquée en France. Voilà un des indicateurs qui nous dit que cette société n'est pas compatible avec la nôtre, parce que la charia n'est pas compatible avec le système judiciaire ni français ni italien. Donc, je n'ai pas peur de parler de la rémigration, c'est un phénomène qui existe, et c'est un phénomène qui doit faire partie de la politique, une politique vraie qui veut le bien de son peuple. Parce que si on n'arrive pas à arrêter l'immigration clandestine, et si on n'arrive pas à rapatrier tous ceux qui ne se conforment pas à notre société, à nos normes, à nos lois et à notre façon de voir le futur, on va être détruit dans les prochaines décennies.
Le sujet qui est un peu connexe à celui-ci, c'est celui de l'identité. Il y a quelque chose qui me, à titre personnel, qui me perturbe un petit peu toujours sur l'Italie, c'est que vous êtes un pays jeune, c'est-à-dire que ça fait à peu près 150 ans que l'Italie existe de manière unifiée. Votre parti, c'est, on pourrait le traduire en français par futur national, oui. C'est ça. Oui. Comment est-ce qu'on peut parler d'identité italienne et de futur national dans un pays qui a tant de différences et qui est si jeune quelque part?
Absolument, absolument. C'est surtout l'Italie qui est le berceau de l'identité européenne. Si on peut penser au fait que l'Italie a été l'Empire romain qui a hérédité de l'art et de la philosophie des Grecs, qui a imposé, si vous voulez, l'ingénierie et la façon de créer un empire des Romains, qui s'est forgé dans la Renaissance, dans les arts, dans la culture, dans la littérature, et qui a été permis partout par la chrétienté. La chrétienté qui, après, a été le seul élément identitaire qu'on peut reconnaître dans toute l'Europe. Alors, en Europe, on a des histoires, on a des langues, on a des traditions, des racines qui sont totalement différentes. Mais ce qui nous unit entre la Norvège, Cap-Nord et Malte, c'est le fait d'être catholique, d'être chrétien. C'est ça qui nous unit. C'est le seul élément identitaire qui nous fait des Européens. Et regardez seulement le fait que l'Europe a renié cet élément identitaire quand il s'agissait d'écrire la Constitution européenne, qui après, c'est un essai qui a été aborti totalement. Mais quand on a tenté d'insérer l'élément identitaire de la chrétienté à l'intérieur de la Constitution européenne, il a été totalement rejeté, comme si on voulait refuser une racine et un élément identitaire qui nous unissent tous, à partir des pays plus lointains jusqu'à la Méditerranée.
Mais sur l'identité italienne, c'est-à-dire que vous avez, je crois qu'en plus, vous avez lancé des études sur le Risorgimento, sur l'identité italienne, des réflexions à ce sujet. Vous étiez dans un parti qui, il y a quelques années, voulait que l'Italie se sépare quand même en deux. D'une certaine façon, qu'est-ce qui relie tous les Italiens, à part la langue italienne peut-être, mais encore, il y a beaucoup de différences. Enfin, qu'est-ce qui relie finalement tous les Italiens? C'est quoi cette identité italienne?
C'est notre histoire, c'est nos traditions, c'est notre cuisine, c'est notre religion, hein, c'est nos souvenirs, c'est nos parents, C'est tout ce qui nous fait italiens. On se reconnaît partout, même si l'État italien existe seulement depuis 160 ans, 180 ans. On se reconnaît partout. On a des diversités régionales qui sont la richesse de l'Italie, mais l'identité italienne est inconfondible. Donc, c'est ça qui nous fait italiens.
Et alors, c'est quoi le futur de l'Italie, donc ? Le futur national ?
Le futur de l'Italie, c'est une Italie qui est fière. C'est une Italie qui ne renie pas son passé. C'est une Italie qui veut sa souveraineté et qui se bat pour elle et qui est bien... elle veut aussi coopérer avec des autres nations dans le cadre de l'Union européenne ou de la... mais pour des objectifs, objectifs qui soient convergents. C'est ça le futur de l'Italie.
La raison pour laquelle vous avez fondé votre nouveau parti, c'est évidemment parce que vous n'étiez pas satisfait par l'offre politique actuelle, qu'elle vienne de Fratelli d'Italia ou qu'elle vienne de la Lega. Qu'est-ce qui leur manque ? Pourquoi est-ce que, finalement, vous pensez qu'ils ont trahi leurs idéaux quelque part ?
Je pense que c'est la fierté d'être un parti de droite. Je pense que c'est la cohérence vis-à-vis des principes d'un parti de droite authentique. Et je ne suis pas le seul à être déçu, parce qu'en Italie, c'est le 50% de la population qui ne va pas voter. Donc ça veut dire qu'il y a le 50% de la population qui ne croit pas à l'offre politique qui est présente aujourd'hui en Italie. Voilà la nouveauté de futur national. Et on est déjà donné entre 3 et 4% en Italie. Et j'espère que cette idée va se répandre dans toutes les régions. On est en train de se structurer sur le territoire. Et qui va appeler au vote surtout les gens qui, jusqu'à maintenant, ont été déçus par l'offre politique présente en Italie.
Qu'est-ce qui a pu les décevoir ? Qu'est-ce qui, vous a déçu chez Giorgia Meloni ? Qu'est-ce qui vous a déçu ?
Ce gouvernement de centre-droite qui est au pouvoir en Italie depuis 2022 se basait sur trois piliers fondamentaux. Premièrement, la réforme de la justice, qui n'a pas eu lieu. Deuxièmement, la réforme constitutionnelle vers un présidentialisme ou premierat, qui n'a pas été concrétisé. Et troisièmement, une vision autonomiste qui non plus, elle, a été réalisée. Donc, on se trouve devant un gouvernement qui a administré plutôt que conduit une nation. Et là, l'alternative, c'est avoir un parti qui veut conduire, qui veut réaliser ce qu'il dit, qui ne fait pas de promesses qu'il ne peut pas maintenir, mais qui veut réellement faire le bien de son peuple, le bien des Italiens. Enfin, tout politicien devrait être concentré seulement à faire le bien de son peuple et pas à d'autres objectifs qui ne regardent pas la politique nationale.
Il y a deux ou trois sujets qui ont été particulièrement reprochés à Giorgia Meloni et dont on parle beaucoup en Europe. Il y a celui de l'immigration, tout d'abord, où effectivement il y a eu des régularisations massives qui ont été prévues pour permettre une immigration de travail. Et deuxièmement, il y a cette question d'un peu de la soumission à la Commission européenne, ou en tout cas des négociations à ce niveau-là. On sait que l'Italie est quand même dans une situation très compliquée sur le plan économique et démographique, dans le sens où vous avez un taux de natalité qui, je crois, est de 1,15 enfants par femme, ce qui est un des plus bas de toute l'Europe. D'un autre côté, vous dépendez du plan de relance européen. Est-ce que Meloni, elle ne fait pas ce qu'elle peut, en fait, dans le fond ?
Non, je ne crois pas. Elle aurait pu faire beaucoup plus. Elle aurait pu faire beaucoup plus dans la direction de sortir de ce Green Deal qui nous a totalement désertifié du point de vue industriel de la production. Elle aurait pu faire beaucoup plus en ce qui regarde l'immigration clandestine et les rapatriements. On a rapatrié presque personne dans ces trois ans de gouvernement de centre-droite. On a rapatrié moins d'étrangers que les gouvernements précédents.
C'est drôle parce que tout le monde disait avant son élection que Giorgia Meloni était une néo-fasciste. Et là, vous dites qu'elle est de centre-droite.
Bah, c'est le gouvernement de centre-droite. Donc, elle est le leader, elle est le président d'un gouvernement de centre-droite. Mais vous savez, la gauche, chaque fois qu'on ne pense pas comme une personne de gauche, on est fasciste. Donc tout le monde est fasciste selon la gauche. C'est normal. Et sur le plan économique, il y a eu des résultats appréciables. Par exemple, le chômage. Mais on est effectivement soumis à ce que sont les règles européennes qui, beaucoup de fois, ne font pas les intérêts des Italiens. Mmh. Donc, j'aurais apprécié beaucoup plus des positions fermes vis-à-vis de l'Union européenne, surtout pour le bien de notre pays. Mmh. Donc, ce n'est pas faire ce qu'on peut, c'est faire ce qu'on veut. Mmh. C'est qu'on, ce qu'on veut pour le bien de sa nation. Aussi, en s'imposant avec des positions qui ne sont pas... si vous voulez,
oui, consensuel.
Consensuel, voilà, voilà, voilà. C'est ce qu'on s'attendait plus de ce gouvernement.
Mmh. Et alors, d'une certaine façon, vous créez quand même un quatrième parti de droite. Est-ce que vous n'avez pas peur de diviser votre camp? Beaucoup de gens en Europe parlent de l'union des droites. Et d'ailleurs, il y a des ponts qui se font ici entre l'Europe des nations souveraines, qui est votre groupe, ECR, le PPE. Enfin, c'est des choses qui se font au niveau européen. Au niveau italien, Giorgia Meloni a réuni effectivement Forza Italia, la Lega et Fratelli. Est-ce que vous n'avez pas peur de diviser encore plus la droite face à la gauche, justement?
Non, non, absolument pas. C'est un parti qui veut, si vous voulez, donner un signal et remettre la barre de ce navire dans la juste direction. Mmh. Voilà, rappeler à tout le monde quels étaient les propos du gouvernement de droite et reporter ce gouvernement de centre-droite dans la direction où on avait dit au début elle serait allée. Mmh. Voilà, ça c'est l'intention. Bien sûr, c'est un parti indépendant. Mmh. C'est un parti qui n'a pas peur de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Mmh. Et donc, c'est un parti qui fait un peu de boussole vis-à-vis de ce centre-droite. Je ne vais jamais me mettre avec la gauche, ça c'est sûr.
Et alors, la question, peut-être pour conclure, dans un peu plus d'un an, il y a les élections législatives en Italie. Vous êtes crédité actuellement de à peu près 3% à 4% effectivement dans les sondages. On connaît l'histoire de Giorgia Meloni qui était à 1,7% je crois et qui finalement est à plus de 30% et gagne les élections. Est-ce que vous rêvez d'un destin un peu similaire? C'est quoi votre ambition en fait?
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vois beaucoup de curiosité dans les Italiens, un bon consensus. Je vois que le parti est en train de se structurer en détail dans le territoire. Donc, pourquoi pas ne pas croire à une croissance exponentielle dans ces 13-14 mois qui nous séparent des élections? Et pourquoi pas ne pas croire à un succès de Futur National qui remet le bateau dans sa direction originale?
Merci beaucoup d'avoir été, de nous avoir accueillis, de nous avoir accordé un peu de votre temps, Monsieur Vanacci. Et puis, on suivra l'histoire de votre parti, le futur de votre parti, avec beaucoup d'attention.
Merci à vous et merci pour l'opportunité.